Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, bienvenue dans Les Fous du Volant. Ensemble, on va évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme ?
Salut Gilles, en forme et toi ?
Ça va très très bien. Podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Avant de prendre la direction de l'Allemagne pour la 11e épreuve de la saison, on va s'intéresser aujourd'hui à Honda, qui se retire de la Formule 1 à la fin de la saison 2021. L'occasion pour nous de revenir sur une histoire assez riche dans la discipline. Ça sera notre premier sujet. Le deuxième sujet, ça sera les conséquences justement du retrait de Honda pour Red Bull et pour AlphaTauri. Le troisième point qu'on évoquera, ce sont les tops et les flops déterminé par Stéphane et moi-même après les 10 premiers Grands Prix de la saison. Et puis on terminera, on se rapprochera donc de l'Eiffel avec les premiers tours de roue officiels d'un Schumacher en Formule 1 depuis la retraite de Michael avec l'arrivée donc de Mick Schumacher, le fiston, vendredi prochain sur le circuit du Nürburgring. On démarre donc avec ce coup de théâtre, ce coup de tonnerre même, qui a retenti dans l'univers de la Formule 1 à la fin de la semaine dernière. C'était vendredi, pour être tout à fait précis. Honda, donc, par l'intermédiaire de son président, Takahiro Ashigo, a donc annoncé le terme de l'aventure en Formule 1 à la fin de la saison 2021. Une annonce plutôt surprenante quand on voit les progrès faits par le motoriste japonais. Et on a profité de cette occasion pour faire le point sur l'histoire de Honda en Formule 1, parce que Stéphane, c'est une histoire riche, longue et finalement épisodique. Il y a 4 grandes étapes dans la présence de Honda en Formule 1. Tu peux nous retracer ça rapidement ?
Oui, rapidement, Gilles, en fait, oui, c'est ça, c'est la quatrième fois, en fait, que Honda va quitter la Formule 1. C'est une histoire en pointillés, faite d'aller-retour, pour des raisons différentes à chaque fois. Il y a une première période, entre 64 et 68, marquée par 2 victoires, donc ça, c'était intéressant, pour Honda en tant que constructeur, c'est-à-dire fabricant de châssis, au sens de la Formule 1. C'est là où on peut s'inscrire au championnat du monde de Formule 1. Ils sont venus en 83, pour une raison précise, le défi du turbo qui avait ouvert Renault, dans lequel s'était engouffré aussi Ferrari. Et c'était un exercice de style très intéressant pour les ingénieurs japonais, puisque cette firme, en fait, aime bien envoyer ses jeunes ingénieurs sur le front de la Formule 1 de la compétition pendant quelques années, et puis ensuite les remettre au produit avec les codes, en fait, de la Formule 1. Honda a réussi avec les champions du monde avec Williams, avec McLaren. Ensuite, ils ont fait un moteur atmosphérique qui a bien fonctionné. Et là où il y a eu un petit hic, c'est que le V10 était la meilleure solution. Et ils ont essayé un V12. Là, ils se sont, plantés. La dernière année, chez McLaren, en 92, ils sont partis. Ils sont revenus avec Barr dans les années 2000. Et de nouveau, ils ont quitté la Formule 1 lors de la crise des subprimes fin 2008 un constat, je dirais, d'échec. Ils ont raté un petit peu l'opportunité que lui offrait l'histoire, puisque c'est Brown, en fait, qui a récupéré l'écurie, qui l'a racheté pour une livre sterling symbolique, je crois, et qui était champion du monde. Et ensuite, ils sont revenus avec McLaren, et ça ne s'est pas très, très bien passé. Ils avaient 10 ans de contrat, 2015-2024, normalement. Et au bout de 3 ans, tout le monde a compris qu'il fallait se séparer. Et là, ils sont allés chez Red Bull. C'était ça passe ou ça casse. Ça a gagné grâce à Verstappen l'année dernière. Ils avaient un contrat de 2 ans, 2019 et 2020, qu'ils ont prolongé pour 2021. Et là, après, la grande question, c'était qu'est-ce que faisait Honda ? Et bien, ils ont décidé, là, brutalement, je dirais, de se retirer.
Alors brutalement, on ne sait pas trop en fait, parce que apparemment, Honda aurait déjà commencé à prévenir Red Bull qu'on allait se retirer ou en tout cas revoir la stratégie. Il y avait quand même un indice fort de la part de la firme japonaise. Il y a un problème d'image là du côté de chez Honda, parce qu'on se souvient des débuts très 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 difficiles de la dernière arrivée de Honda en Formule 1 à l'époque, donc chez McLaren, avec Fernando Alonso qui avait quasiment dit que c'était un moteur de GP2 qu'il avait dans sa voiture. Est-ce que pour toi c'est la fin d'une façon de travailler en Formule 1 en étant simple motoriste comme l'a fait Honda?
Alors, tu parles de l'image. D'abord, Gilles, c'est vrai que c'est très, très important parce que tu as parlé de moteur de GP2. Alonso, sur un coup de sang, avait fait subir une humiliation à Honda, à Suzuka, en 2015, en disant, moteur GP2, en grognant à la radio, c'était en direct, c'était un désastre absolu. Et ce qui est un petit peu embêtant, finalement, c'est que quand l'histoire ne se termine pas bien avec un titre de champion du monde, quand on s'en va, ce qu'on retient plus, c'est des couacs comme celui-ci. Malheureusement, c'est un petit peu ça. C'est une histoire Honda, c'est un petit peu une histoire inachevée en Formule 1. Et ce que je retiens, c'est ce moteur de GP2 Engine, qui avait lancé Alonso, qui avait fait beaucoup de mal. Et il l'a regretté. Il a dit qu'il l'avait regretté il n'y a pas très, très longtemps. Alors, concernant l'image…
Ah, surtout quand il a voulu faire les 500 miles avec Honda. C'est surtout là qu'il a regretté.
Tout à fait. Je dirais en fait que… En termes d'image, ce qui est important, c'est ce qu'ils avaient réussi dans les années 80, c'est qu'ils s'étaient associés à des bons fabricants de châssis, Williams et McLaren et Lotus. Et surtout, ils étaient venus avec l'idée aussi de développer leur notoriété, par exemple, au Brésil. Ils voulaient absolument avoir Senna. Ils avaient eu Piquet chez Williams en 86 et 87, ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient Senna aussi, donc ils avaient pris la place du moteur Renault chez Lotus. Et puis, ils avaient aussi travaillé l'image à la maison en imposant un pilote japonais, Satoru Nakajima. Donc ça, c'était une très, très bonne chose. Et je dirais que du point de vue de l'image, ils pouvaient travailler là-dessus. Malheureusement, ils sont revenus en 2015 d'une façon un petit peu rapide. Et là, il fallait réactiver une filière de pilotes, avoir un pilote du cru pour le lancer en Formule 1. Il fallait du temps. Ils avaient fait ça aussi avec Takuma Sato chez Barr au début des années 2000. Ça fonctionnait très, très bien, moi, je trouve. Et Takuma Sato, d'ailleurs, s'était rendu populaire avec un podium à Indianapolis en Formule 1. Et puis là, en fait, le pilote emblématique qui reste des années qu'on vit là, c'est Takuma Sato. On ne peut pas dire autrement. Takuma Sato qui a gagné pour la deuxième fois Indy 500 cette année après 2010. Voilà. Donc, c'est ça qui reste. Et du côté de la Formule 1, si Verstappen gagne, il est… pilote néerlandais, ça leur apporte pas grand-chose. C'est une star, certes, mais c'est pas la même chose que dans les années 80 ou même avec Sato.
C'est un petit peu terrible ce que tu dis, parce que au final, l'association entre Red Bull et Honda, elle est deuxième du classement des constructeurs en ce moment. Il n'y a que Mercedes qui arrive à faire mieux. Cette association entre un fabricant de châssis et un motoriste. Qui se faisait, qui avait vraiment très très bien fonctionné à la fin des années 80 et au début des années 90, elle peut fonctionner, on le voit, hein, s'il n'y avait pas Mercedes, Red Bull dominerait le championnat. Effectivement, où je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement un déficit aussi d'image. C'est clair que quand on est motoriste, un moteur, on le voit surtout quand il a un problème. On ne le voit pas trop quand ça marche, ça fait moins de fumée un moteur qui fonctionne. Et puis en termes de pilote, c'est clair que d'un côté il y a Takuma Sato qui gagne pour la deuxième fois à Indianapolis, de l'autre il n'y a pas de pilote japonais en Formule 1. Yuki Tsunoda va sans doute arriver la saison prochaine et c'est peut-être un tout petit peu trop tard. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous refaire le coup de 2008? On se souvient que fin 2007 Honda engage Ross Brawn et pas de Fry pour faire la voiture. C'est trop tard pour le modèle 2008. Et puis à la fin de la saison 2008, alors que les deux hommes ont pu faire une très très bonne voiture, on le saura l'année suivante, bah finalement Honda se retire. Est-ce que Honda risque pas de se retirer au moment où il y aura un espoir japonais et au moment où peut-être les résultats vont vraiment tomber chez Red Bull? C'est compliqué.
Oui, alors pour l'instant ils disent qu'ils s'en vont. Je reviens juste sur le fait qu'effectivement, Honda, c'est un petit peu aujourd'hui l'impasse que représente pour tout motoriste une application en Formule 1. Et c'est là la complexité de la chose. Exister en tant que partenaire technique, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de budget sur le développement, on n'a pas de sponsor autour. Parfois même, on apporte un budget, ce qu'avait fait Honda, ce qui avait coûté très très cher à McLaren en disant on vous donne des sponsors, on vous apporte des sponsors pendant 2-3 ans. On apporte une somme complémentaire pour vraiment vous assurer vos arrières au plan financier. On a vu que quand ils sont partis, McLaren était à genoux. La preuve, c'est que cette année, ils ont contracté un prêt supplémentaire pour survivre. Donc ça, c'est complexe. C'est aussi un petit peu une question d'image, de visibilité. Dans le paddock, par exemple, quand on est motoriste, on n'a pas d'hospitalité. On est hébergé par son équipe. Bon. Du point de vue politique, on n'a pas le droit de vote. Dans les grandes décisions, on n'est pas intervenant. On n'est pas signataire des accords Concorde, on a quasiment rien à dire, on le dit à travers ses équipes.
C'est peut-être de ce côté-là qu'il va falloir réfléchir, effectivement, pour faire venir d'autres oui. motoristes, et pas de revenus, oui, comme tu le dis.
Tout à fait, et on n'a pas de revenus propres qui sont redistribués par le promoteur de la Formule 1. Et dans tout ça, je dirais que Honda n'a pas tellement maîtrisé, finalement, ses retombées. C'est terrible, mais quand on perd, en fait, c'est le motoriste qui perd. Et quand on gagne, c'est surtout l'écurie. Et là, en l'occurrence, tout le monde sait que c'est Verstappen qui a gagné à Silverstone et c'est Pierre Gasly qui a gagné à Monza. Donc là, c'est un petit peu compliqué.
Alors que finalement, Honda reste le seul constructeur depuis l'ère hybride, en tout cas le seul motoriste, à avoir gagné avec deux équipes différentes, hein, donc Red Bull et AlphaTauri. Ce qui est sûr, c'est que Honda ne pouvait pas continuer sur tous les fronts. Hein. Il y a aussi ça, un problème de ressources pour le constructeur japonais, engagé en Formule 1 d'un côté, engagé en IndyCar face à Chevrolet, engagé en MotoGP. Et là, Honda n'est que cinquième du classement des constructeurs en MotoGP, sans parler du Super GT au Japon. Ça faisait trop pour la firme Nippon qui a fait un choix et qui va donc couper à ce qui coûte le plus cher. La Formule 1 restera donc bien plus que trois motoristes en Formule 1 après le retrait de la firme japonaise. Alors justement, on va évoquer maintenant ce qui va se passer après l'annonce hein, de ce retrait de Honda de la Formule 1, les conséquences pour Red Bull et pour AlphaTauri. La première conséquence, Stéphane, évidemment, c'est qu'il va falloir que Christian Horner et Frank Tost retrouvent un moteur. Et là, on pense quand même un petit peu à Cyril Abitbol qui avait un peu chambré Christian Horner en lui disant « t'as besoin maintenant d'un pilote et d'un moteur » quand il y avait piqué Daniel Ricciardo. Bon, là, il lui a rien piqué du tout, c'est le moteur qui est parti tout seul. Le tout en seulement 13 mois, la fin de la saison 2021, c'est dans seulement 13 mois, ça va aller très très vite. On a identifié, Stéphane, tu es d'accord avec moi, quatre pistes. La première d'entre elles, c'est peut-être la plus simple, c'est simplement un transfert de technologie, continuer à utiliser un moteur Honda, éventuellement rebadgé. En tout cas, chez Honda, on a dit qu'on était prêt à travailler dans cette hypothèse.
Oui, et il va falloir se décider très très vite sur cette option, tu l'as dit. Gilles, 13 mois, c'est très court, c'est demain en Formule 1. D'autant plus que Red Bull a dit qu'il se doutait un petit peu de certaines choses. Il y a une chose qui m'avait fait tiquer, c'est qu'autour de Sochi, je crois que c'était juste avant, Honda avait dit qu'il ne développerait plus de moteur d'ici la fin de la saison 2020. Donc ça veut dire que quand on veut faire encore un meilleur moteur en 2021, c'est pas très cohérent. La question maintenant, c'est un recyclage finalement du moteur Honda, un petit peu comme Honda sait faire. Ils avaient apporté l'argent, le développement en 2008 pour faire un châssis qui s'est finalement appelé Braun, qui était champion du monde avec un moteur Mercedes. Et là, c'est pareil. Ça serait bête, ça serait dommage de gâcher un tel développement technique dont Honda ne pourra pas profiter ensuite en compétition. La meilleure solution, c'est peut-être un transfert de technologie à Red Bull, qui pose un petit problème parce que les bancs d'essai sont au Japon, ce sont des bancs d'essai hyper sophistiqués. Et là, Red Bull va avoir besoin d'un partenaire technique en Angleterre pour tester les moteurs et pour le développer très très vite. Honda a proposé, pour schématiser, une assistance en fait technique pour faire le lien. Donc c'est peut-être la meilleure solution en interne. J'ajoute que faire un moteur en partant d'une feuille blanche, Red Bull a toujours dit que c'était impossible, ça coûtait trop cher. Il faut au bas mot à peu près 500 millions d'euros, ce qu'a investi Mercedes dans le V6 hybride. Là, quand on manque de temps et quand on n'a pas le budget, c'est juste pas possible.
Ouais, puis il n'y aurait pas le temps en plus de l'amortir, hein, parce qu'on sait que le règlement va évoluer, on va dire, à moyen terme, hein, sur les moteurs. Trois autres pistes donc qu'on voudrait évoquer. Évidemment, les trois autres motoristes qui sont actuellement en activité en Formule 1, Mercedes, Ferrari et Renault. On commence par Mercedes. C'est la valeur sûre, Mercedes, c'est le moteur de référence en ce moment en Formule 1. Est-ce que ça peut être intéressant pour Mercedes d'équiper également Red Bull? Ça commencerait à faire beaucoup de moteurs étoilés sur la grille de départ, non?
Ben, ça ferait 10 voitures sur 20. Alors, je pense que c'est trop, il y a un déséquilibre. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Mercedes a son propre moteur pour son équipe d'usine et on sait que c'est une version un tout petit peu moins performante, moins pointue. Chez Racing Point, chez Williams, ça a toujours été ainsi. Et donc, ça signifierait, est-ce qu'on donne le moteur avec le moteur d'usine à Red Bull? Là, il y a un vrai danger.
Ah oui, est-ce qu'on armerait la concurrence du côté de chez Mercedes?
Voilà, c'est c'est une vraie question. Et puis, ça voudrait dire aussi… on pourrait peut-être envisager une solution. Mercedes fournit Red Bull et puis AlphaTauri se débrouille pour trouver un autre moteur. Mais Red Bull a clairement dit que pour des questions d'économie, puisqu'on va avoir un budget capé à partir de l'an prochain, il y aurait beaucoup plus d'échanges en fait, techniques et de mutualisation des solutions entre Red Bull et AlphaTauri. Donc, il faut
quasiment obligation d'avoir le même groupe
moteur propulseur. À Red Bull et à AlphaTauri à partir de 2022 de toute façon.
La deuxième hypothèse, c'est donc Ferrari. Bon, là en ce moment, aller chercher un moteur Ferrari, c'est quand même pas très très enthousiasmant. On voit bien que c'est plutôt le point faible chez Haas, chez Alfa Romeo, pour pas dire chez Ferrari elle-même. C'est un peu moins sexy, à moins que ça aille mieux dans les prochains mois.
Oui, parce que Mattia Binotto a promis à Charles Leclerc un moteur tout neuf, refait complètement l'an prochain. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce moteur fasse ses preuves sur quelques grands prix et ça me paraît difficile pour Red Bull d'attendre l'échéance du mois de mai-juin pour installer un moteur, sachant que les études de la voiture 2022 sont déjà lancées. Il faut les rectifier au plus vite pour intégrer le prochain moteur. Donc là, c'est plus le temps qui va manquer pour récupérer un moteur Ferrari. Et c'est vrai que la question de la puissance se pose clairement.
Alors la solution finalement la plus crédible, mais qui n'est pas la moins croustillante quand même, bah, c'est de retourner chez Renault, parce que Renault a sa propre équipe, est également le motoriste de McLaren, mais à la fin de la saison, l'équipe d'Andreas Seidel va se tourner vers Mercedes. Donc finalement, Renault sera tout à fait capable de fournir des moteurs à Red Bull. J'évoquais le petit échange qu'il y avait eu, les temps très très difficiles entre Red Bull et Renault à la fin de la cohabitation, de la collaboration même entre les deux équipes. Il y avait des problèmes moteurs chez Renault, Verstappen qui se plaignait, Christian Horner qui n'épargnait pas Cyril Abitbol, et puis finalement Abitbol y avait piqué Daniel Ricciardo et il y avait dit maintenant il faut que tu trouves un moteur et un pilote. Est-ce qu'il va attendre comme ça à l'entrée de l'hospitalité que Christian Horner vienne le revoir? Moi j'ai le sentiment, Stéphane, qu'en Formule 1 c'est un peu comme dans le monde des affaires, hein. C'est le business qui décide. Il n'y a pas de sentiment, et que si c'est l'intérêt et de Red Bull et de Renault, l'association se refera. Et on fera semblant d'oublier les mots un petit peu durs qui se sont dits par le passé. Est-ce que tu partages ce sentiment?
Oui, Gilles, et tout est possible en Formule 1. Alonso est bien revenu chez McLaren du temps de Randonis, alors qu'il était parti pour ça et qu'il avait planté l'écurie et qu'il avait révélé des choses qui l'avaient compromise dans l'affaire d'espionnage, fin 2000, courant 2017. Donc, tout est possible. Et j'ajoute que pendant la crise du coronavirus, des techniciens de Renault sont allés travailler chez Milton Keynes pour designer, fabriquer du matériel médical pour aider la population, les malades, le monde médical.
Milton Keynes, c'est là où est installé l'atelier de Red Bull.
Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a rien d'impossible. Et ça s'était fait naturellement dans une forme de respect, vraiment. Donc, on peut imaginer que Renault revienne avec Red Bull, mais je dirais que Renault doit dicter ses conditions et ne pas réarmer un adversaire parce que son objectif, c'est le titre mondial. Il faudra déboulonner Red Bull de la deuxième place pour y parvenir. Renault va peut-être terminer troisième du championnat cette année. Donc, il faudra prendre cette place de Red Bull. Donc, c'est un petit peu délicat. Je dirais poser des conditions, c'est quoi? C'est peut-être dire, vous venez vers nous, mais nous, on fait ce qu'on veut. On peut vous fournir ce moteur. Et d'ailleurs, la FIA peut le contraindre. C'est-à-dire qu'elle
Oui.
peut désigner le motoriste qui équipe le moins de voitures sur la grille. Renault équipe que deux voitures, les siennes, aujourd'hui. Et la FIA peut dire, eh bien, vous allez équiper une équipe qui est dans le besoin, qui aligne quand même, enfin, deux équipes et qui aligne quatre voitures. On n'imagine pas Red Bull et AlphaTauri quitter la scène parce que là, on aurait une grille à 16 voitures et c'est quasiment pas viable.
Mais c'est quand même un point. C'est quand même un point sur lequel Christian Horner peut faire un petit peu pression. C'était très très bien expliqué dans un article de Julien Pereira hein, sur Eurosport.fr. Mine de rien,
Excellent,
Red Bull
parfait.
et AlphaTauri, c'est quatre voitures sur la grille. Il y en a 20. Si on leur fait pas plaisir, ils peuvent dire, bon, bah, écoutez les gars, salut, nous on s'en va, il vous reste 16 voitures sur la grille.
Alors la position de Renault, c'est de dire très simplement, aujourd'hui, vous revenez vers nous, on est peut-être obligé de vous fournir, potentiellement, hein, mais on pose nos conditions. Alors, ça peut être un moteur qui ne sera pas Renault, qui sera rebadgé. Red Bull l'a fait avec le Tag Heuer. Ça peut être imposé. Un jeune pilote comme Lundgaard, qui est en Formule 2, qui va certainement avoir besoin d'une session supplémentaire l'an prochain pour s'aguerrir, pour arriver en Formule 1 en 2022. Donc ça, ce sont des choses négociables. Et alors, personnellement, ça n'engage que moi, mais à la place de Renault, par rapport à tout le passif, ce qui s'est dit, le Renault bashing vraiment intensif de Red Bull sur la fin de la collaboration, je dirais, Monsieur Marco a quand même envoyé des signaux extrêmement négatifs pour la réputation de Renault, pour la collaboration. On aimerait avoir un autre interlocuteur. C'est ça une façon de dire, écoutez, Monsieur Marco a peut-être fait son temps, on aimerait des choses un petit peu apaisées. Et puis, contractuellement, si le moteur est rebadgé, je me souviens que lorsque le moteur s'appelait Tag Heuer, eh bien, chez Red Bull, on ne prononçait pas le mot de Renault. Voilà. Donc, si on faisait des critiques un petit peu voilées, ça ne retombait pas ou ça n'impactait pas directement Renault. C'est peut-être ça qu'il faut envisager.
Alors d'ici là, évidemment, Renault passera sous emblème Alpine. Hein, donc on verra aussi comment ça va se passer. Est-ce que ce ne sera pas des moteurs Renault chez Red Bull et donc des Alpines aussi dans l'équipe titre? Faudra voir tout ça. Ça, c'était pour le côté de l'équipe même Red Bull. On va évoquer les pilotes maintenant, à commencer évidemment par Max Verstappen. Qui n'a pas dû apprécier beaucoup hein, l'annonce de ce retrait, parce que forcément, changer de motoriste, souvent, il y a quand même une période d'acclimatation avant que ça ne fonctionne de manière optimale. C'est un petit peu compliqué. Là, il va falloir que Max Verstappen soit assez attentif au choix de son équipe, et éventuellement aussi, à son tour, mettre un petit peu la pression, voir un peu quel est son propre intérêt à lui.
Oui, il faut regarder dans le contrat tout simplement. Et Christian Horner a dit, il n'y a pas de clause Honda dans le contrat de Verstappen en cas de départ de Honda. Donc, Verstappen n'a pas une raison, je dirais, objective, juridique, de quitter Red Bull pour aller chez Mercedes parce qu'on sait que c'est son rêve. C'est très bien que Bottas n'a signé que pour 2021. Il a envie de rejoindre Mercedes au plus vite si le projet Red Bull ne fonctionne pas. Il le dit souvent, j'aime cette équipe, elle est construite autour de moi, on fait tout pour qu'il soit heureux, même quand il est de mauvaise foi, la com de Red Bull l'accompagne. Enfin, c'est juste fantastique. Donc là, c'est dans un cocon, c'est le rêve absolu. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que Verstappen peut réagir. 2020, c'était sa dernière année de contrat, donc il prolonge jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Et cette année était assujettie à la troisième place du championnat pilote l'année dernière, après le Grand Prix d'Hongrie. Donc, il y a des clauses de résultats comme ça. Mais ça, c'était la dernière année. Alors, peut-être qu'il n'y a que l'option de sortie de contrat en 2023. Mais Helmut Marko avait dit que Verstappen était sûr d'être dans la place jusqu'en 2021. Alors, point d'interrogation sur 2022.
On verra ça, hein. faudra être attentif. Évidemment, ça concerne Red Bull, donc ça concerne aussi AlphaTauri, et donc ça concerne Pierre Gasly. Si Renault revient dans le coup, ça peut aussi être intéressant pour Pierre Gasly et pour Renault, quelque part, de retrouver un autre Français en parallèle de Esteban Ocon dans le giron direct ou indirect de Renault ou de Alpine, quelle que soit l'étiquette. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour Pierre Gasly de ce côté-là. Et du coup, par effet de ricochet, un petit peu de pression aussi en plus sur les épaules de Esteban Ocon, mais une bonne opportunité pour Pierre Gasly.
Oui, je pense, parce que ça permettrait... Alors, il faudrait que le moteur s'appelle Renault chez AlphaTauri, ce qu'on peut imaginer. Aussi, un moteur Badger chez Red Bull et un moteur Renault pour faire de la com' autour de Pierre Gasly, parce que ce qui est important, finalement, là où Renault a passé ses plus belles années avec Red Bull, c'est avec Sébastien Vettel, de 2010 à 2013, et on va dire les choses clairement, ça faisait vendre aussi des voitures en Allemagne, ça participe à la notoriété, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, enfin, quand il y avait Max Verstappen, et puis avec son moteur Renault, je suis pas sûr que ça faisait vendre des voitures aux Pays-Bas, en tous les cas, c'est pas ce qui boostait le chiffre d'affaires de Renault globalement.
C'est ça.
Et par contre, ça aurait du vrai sens, parce qu'on voit que d'un côté, on aura l'image Alpine Alonso, et on va travailler là-dessus. Je pense pas que Renault va communiquer directement sur Alonso, mais vraiment sur la marque Alpine, le lien Alpine Alonso, pour lancer l'écurie l'an prochain, qui aura un moteur Renault, qui sera badgé Renault. Ça peut être intéressant en 2022 d'avoir Pierre Gasly dans une AlphaTauri Renault, pourquoi pas. Là aussi, pour travailler un petit peu la fibre bleu blanc rouge, ça serait une solution assez sexy, oui.
Et puis on termine avec donc Yuki Tsunoda, le japonais qui était donc dans la filière Honda, qui va, selon nous, on est d'accord, je pense, Stéphane, arriver dans le baquet d'une AlphaTauri la saison prochaine. Et là, il aura en gros une saison pour convaincre, pour faire sa place, parce qu'après, le soutien va rapidement s'éclipser hein, du côté de chez Honda.
Oui, alors là, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Si Honda rate en plus ça, ils auront finalement tout raté. Ils ont essuyé les plâtres avec McLaren, ils ont essayé de mettre des choses en place. C'est vraiment dommage parce que ça fonctionne. Alors, il faut redire, ils s'en vont parce que ils veulent atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui sous-entend des budgets de l'investissement sur le plan industriel. Et c'est pour ça qu'ils coupent le budget de la Formule 1. Bon, mais oui, il faut mettre Tsunoda en Formule 1 qui arrivera peut-être à faire sa place ensuite, ou alors avec un petit budget Honda discrètement, voilà, à travers un sponsor sur la voiture, et peut-être que tout le monde sera content chez AlphaTauri. Oui.
Voilà donc pour les conséquences pour Red Bull, AlphaTauri et donc pour les pilotes qui vont avec de ce retrait de Honda. Alors, on a fait 10 Grands Prix depuis le début de cette saison particulière 2020 et on a eu envie avec Stéphane de vous proposer nos tops et nos flops. On va se limiter à 3 chacun et on va essayer de faire vite, hein, pas vous emmener dans un tunnel. Le premier top, c'est d'abord aux organisateurs et aux équipes. Aux organisateurs parce que d'abord, établir un calendrier comme ça en quelques semaines de 8 Grands Prix, déjà, on se demandait si c'était faisable. Non seulement on a réussi à aller jusqu'à 8 Grands Prix, mais on le disait, on en a fait 10, il y en a 17 au programme. Le protocole sanitaire a vraiment fait office de référence pour de nombreuses autres disciplines, que ce soit sportives ou même culturelles. Donc ça, déjà, un grand coup de chapeau aux organisateurs, aux équipes, hein, parce que les triples manches, c'était quand même compliqué pour le personnel. Stéphane, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce premier flop, on l'a en commun, c'est venu naturellement. On ne peut que saluer les organisateurs de cette Formule 1 qui ont réussi à s'adapter.
Ce premier top, tu veux dire, Gilles, Formule 1 a été un championnat pilote, en fait, dans la démonstration qu'un protocole sérieux, strict, respecté, peut rendre un championnat viable. Un paddock, c'est 2000 personnes. C'était un défi gigantesque. On a été rassuré au bout de 2 week-ends, ça continue. Pérez a été seul positif au Covid pour 2 Grands Prix. Pour le reste, ça s'est quand même bien passé.
Alors, je te donne mes 2 autres tops et puis tu me donneras toi aussi tes 2 autres tops. Les autres tops, pour moi, c'est évident, c'est Lewis Hamilton hein, qui va peut-être aller chercher sa 91e victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de l'Eifel, qui va peut-être aller chercher son 7e titre de champion du monde. Ça, c'est donc mon 2e top. Et le 3e, bah, c'est Pierre Gasly. Ça faisait quasiment un quart de siècle qu'on attendait une victoire française en Formule 1. C'est pour moi ce qui a marqué cette saison 2020, en tout cas les 10 premiers Grands Prix de cette saison 2020. Stéphane, en une phrase, tes deux autres tops.
Alors, Gilles, mes deux autres tops, c'est Spielberg et Silverstone. On avait une crainte sur ces Grands Prix qui étaient répétés. On a vu Pohlmann et vainqueurs différents à chaque fois. Et puis, retour attrayant de Mugello, d'Istanbul, et Renault, qui peut viser le podium à la fin de cette saison.
Alors moi, mes flops à moi, bah c'est évidemment Ferrari. Là, je ne pouvais pas passer outre que la déception de chez Ferrari, hein, week-end après week-end, on a envie de dire la même chose. Alors là, je vais sortir un cliché, je m'en excuse par avance, mais on a l'impression d'assister toutes les semaines à une réunion de famille, et toutes les semaines, la mamma italienne, elle amène le plat de pâtes, elle le pose sur la table, et on regarde, on dit « Oh là là, c'est collé au plat, c'est manqué, c'est impardonnable !» Mais c'est comme ça, la Scuderia, en ce moment, n'arrive pas à faire des pâtes al dente, à faire une SF1000 al dente. On aimerait bien que ça se passe bien. Mes autres flops, Racing Point, on l'avait annoncé comme un épouvantail. Finalement, il ne fait pas bien peur, cet épouvantail rose. Et puis enfin, le retrait de Honda, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans notre podcast. Et c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la Formule 1. On aurait bien aimé rester avec un quatrième motoriste en Formule 1.
Alors, mes deux autres tops, c'est les limites de la piste que les pilotes ont du mal à respecter, ce qui génère des chronos annulés en qualif, des pénalités qu'on comprend pas bien, qui arrivent en retard. C'est des choses un petit peu complexes. C'est la tentation de la Formule 1 du show.
Ça, c'est un top pour toi?
Non, c'est un flop. Quand on impose en fait une voiture de sécurité supplémentaire pour essayer de créer du show, on rajoute souvent en fait un pit stop. Ça met de la pression sur des mécaniciens qui sont mais à genoux depuis le début de la saison parce qu'on a des triple leaders, c'est-à-dire des grands prix qui filent trois week-ends de suite et les types sont, je peux pas dire autrement, les types sont cramés, voilà, à la fin d'un week-end, et on leur ajoute cette pression-là et qu'on maintenant aujourd'hui un mauvais pit stop en Formule 1 c'est 3,5 secondes. Bon, voilà, ça a mis de côté aussi cette solution de la grille inversée, et Toto Wolff était le seul contre en début d'année, et je souris maintenant en regardant tous les patrons d'écurie dire qu'il faut pas faire ça. Hein, il y a que Horner chez Red Bull qui résiste. Et puis, le flop aussi, quand même, c'est Bottas qui fait pas exactement le job chez Mercedes, qui pourrait rendre ce championnat attrayant, qui ne l'est pas. Et puis, Vettel chez Ferrari se fait rouler dessus, vraiment par Leclerc. Et puis, Ocon aussi se fait vraiment dominer 9 fois sur 10 en qualif par Ricciardo. Et ça peut pas faire de lui un pilote numéro 1.
On a fait le tour de nos tops et de nos flops après 10 Grands Prix. Évidemment, Stéphane, on prend rendez-vous, on le refera à la fin donc de la saison qui est prévue, on vous le rappelle, hein, pour 17 Grands Prix. On va passer à notre quatrième et dernier point avant ce Grand Prix de l'Eifel, qui sera un moment historique parce que c'est la première fois depuis le Grand Prix du Brésil en 2012 qu'il y aura officiellement un Schumacher dans un baquet de Formule 1 sur un circuit, dans un week-end de compétition. Mick Schumacher va prendre les commandes d'une Alfa Romeo lors de la première séance d'essais libres, en l'occurrence celle de Vincent Antonio Liuzzi, pour faire donc la FP1. Et c'est un petit peu une histoire qui recommence, hein, Stéphane, parce que les premiers pas de Michael Schumacher, donc son père, au niveau mondial, à l'époque c'était en endurance, c'était dans une Sauber, et Sauber est l'équipe de base sur laquelle s'appuie Alfa Romeo. Dans le cocon de Ferrari, l'histoire recommence.
Oui, alors tout à fait, c'est exactement ça, et on a l'impression que c'était une histoire un petit peu écrite, puisque Mick Schumacher a été mis dans les meilleures conditions quand il est passé chez Prema, en fait, qui est la tête de pont de Ferrari. En Formule 4, en Formule 3, en Formule 2, et il a eu toujours finalement le meilleur matériel. Il est managé aussi par Sabine Kehm, qui était l'attaché de presse au début du temps de Benetton et Ferrari de Michael Schumacher, qui est devenu son manager du temps de Mercedes. Donc on refait un petit peu l'histoire, mais je dirais qu'il a quand même du mérite, parce que en tant que fils de champion du monde, avec le nom qu'il a, c'est pas facile. Il n'y a que Villeneuve, Hill et Rosberg qui ont eu des descendances de champions du monde.
Pour et des reste, contre-exemples, on en a. Les Mathias Loda a jamais existé par rapport à son père. On pense à Nicolas Prost aussi, qui n'a pas réussi à s'imposer en Formule 1.
Qui est venu sur le tard en sport méca, mais effectivement, qui est un petit peu plafonné. Bon, c'est un petit peu plus normal.
Piquet Junior.
Oui,
donc, il s'est illustré autrement, lui.
Oui, c'est ça. À Singapour, en 2008, avec le crash gate. Schumacher, il a visé la régularité. Il va être champion de Formule 2, je pense, avec une fin de saison en boulet de canon, comme il avait fait en Formule 3, parce que Dan Ticktum m'avait trouvé un petit peu bizarre à l'époque et ça avait fait un petit peu des vagues. Mais il a, entre guillemets, que deux victoires, Monza et Sochi. Mais surtout, il a rentré 17 fois dans les points sur 20. Il a 10 podiums. Donc lui, il a misé sur la régularité. Il avait sa super licence depuis 2018. C'est pas facile maintenant d'avoir une super licence. Donc tout ça, c'est amplement mérité. Je trouve qu'on a tous envie, on est tous curieux de voir la suite de l'histoire.
Sauf que maintenant, alors jusque-là, on avait Mick Schumacher dans une Formule 1. Alors c'était au Mugello avec la monoplace de 2004, celle pilotée par son père, Michael. Il a fait une séance à Fiorano avec un modèle de 2018. Bon, là, c'était un peu plus pour la préparation. Mais j'ai envie de dire, Mick Schumacher dans une Formule 1, jusque-là, c'était pour la photo. Là, vendredi, c'est pour le chrono.
Alors, c'est pour le chrono, c'est pas un cadeau. Une piste de vendredi matin est toujours sale. On fait des tours, on passe de train de pneus, on fait des longs runs, on essaie de pas faire de bêtises. On y va pour 25-30 tours. Surtout, il va y avoir une pression absolument gigantesque, je pense. Et puis, un changement de décor radical quand il va rentrer dans le garage d'Alfa Romeo. En Formule 2, il a 12 membres d'équipe autour de lui. Là, il en aura 30 rien que dans son garage. C'est extraordinaire. C'est presque x3. Ce qui est marrant, c'est qu'il va travailler aussi un petit peu avec des gens qui officiaient déjà avec son père en Formule 1 du temps de Ferrari. Donc, c'est encore, on revient sans arrêt à ça. Ça va lui courir après pendant un moment. Mais je pense qu'il va gérer tout ça très, très bien parce que c'est un pro de la com. Depuis toujours, il a vraiment été formé à ça. Et ses interviews exclusives sont même plus rares que celles de son papa du temps de sa gloire.
Et puis, ce n'est pas un endroit anodin. C'est quand même sur le circuit du Nürburgring. Alors, pas sur la boucle nord, évidemment. Ça fait longtemps que la Formule 1 ne va plus sur ce circuit, sur le circuit de Formule 1 du Nürburgring. Mais c'est finalement pas très loin du giron naturel des Schumacher. C'est évidemment en Allemagne. Il y aura du public. On parle de 20 000 spectateurs autour de ce Grand Prix. Hey, ça va quand même être un premier pas en Formule 1 officielle. On le sait, de toute façon, en 2021, Mick Schumacher, pardon, on n'est pas prêt de finir de la faire, cette boulette. Mick Schumacher, en 2021, il sera chez Alfa Romeo. On est d'accord là-dessus?
C'est un secret de polichinelle. Mick Schumacher sera en Formule 1 prochain chez Alfa. Il est là en formation. On l'a mis dans de bonnes conditions puisqu'on a choisi un week-end de Grand Prix qui n'est pas couplé avec la Formule 2. On sait qu'il y a des pilotes qui font ça, F1 le vendredi matin et puis ils passent à la Formule 2. Ça peut les déstabiliser dans beaucoup de cas parce que les repères de freinage ne sont pas les mêmes, les vitesses de passage ne sont pas les mêmes, etc. etc. Kalumi Lot va rouler dans la Haas aussi sur ce vendredi matin, et Schwarzman, le troisième pilote de la Ferrari Driver Academy, lui roulera à Bahreïn, et c'est pour lui que ça sera compliqué puisque ça sera un week-end F1-F2. Donc il est le moins bien placé au championnat de Formule 2 de la Ferrari Driver Academy. Il aura des conditions un petit peu moins bonnes. Alors pour Schumacher, effectivement, tout se présente bien, et il sera sur un circuit même qui comporte un virage Schumacher. Donc ça, c'est extraordinaire.
Oui, alors si je fais le parallèle, faudra faire attention parce que j'ai le souvenir d'un Jorge Lorenzo qui était tombé dans son virage à Jerez. Donc, faudra faire attention à ce virage Schumacher pour Mick Schumacher. Mais bon, ça sera un moment un petit peu particulier, effectivement, de retrouver un Schumacher au volant d'une Formule 1 8 ans après la retraite sportive de son papa et dans les conditions que l'on connaît, Michael Schumacher qui se bat toujours pour essayer de retrouver ses moyens. On a très très peu d'informations d'ailleurs de ce côté-là, Stéphane.
Oui, Jean Todt nous donne des nouvelles quand effectivement il a rendu visite à Michael. On sait qu'il regarde la Formule 1 des Grands Prix avec lui. Il y a un espoir de le voir retrouver ses moyens. Je ne sais pas jusqu'à quel point il pourrait retrouver la facilité dans les gestes du quotidien. Mais tu l'as dit, tu as bien résumé, on a très peu d'informations sur Michael. On espère qu'il se rétablit progressivement. C'est un très, très, très grand défi au long cours.
Exactement. Voilà pour cette émission d'aujourd'hui des Fous du Volant. On vous donne rendez-vous donc nous la semaine prochaine après ce 11e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de l'Eifel, avec des horaires qui sont un petit peu particuliers pour le dimanche. Un départ à 14h10 de ce Grand Prix de l'Eifel sur le circuit du Nürburgring. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, vous nous donnez des étoiles, plein, mettez le maximum, 5, ça sera très bien comme ça. Vous vous abonnez comme ça. Au prochain épisode, vous recevez ça directement sur votre appli chaque semaine. On a tout dit, Stéphane, c'est bon pour toi?
Oui, vivement la prochaine des Fous du Volant. Salut à tous, salut Gilles.
Alors si c'est bon pour toi, on se dit à la semaine prochaine et on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.